Bienvenue à cette session. On va discuter durant ces quelques minutes, Stanislas, de la live migration dans Hyper-V de Windows Server 2012. La live migration, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui est apparu avec Windows Server 2008 R2. Simplement, ça avait un certain nombre de contextes de fonctionnement qui étaient assez limités. On devait avoir un cluster pour le faire fonctionner. On va voir que dans 2012, on a beaucoup fait évoluer la technologie.
Effectivement, dans Windows Server 2012, on garde toujours le scénario de live migration entre deux hyperviseurs qui sont des nœuds de cluster. On va voir qu'on a rajouté d'autres scénarios permettant de faire de live migration soit entre serveurs, soit entre cluster et serveurs, soit entre clusters carrément.
Et bien parfait, on va commencer avec le principe général.
Alors, principe général d'une live migration tel qu'on le connaît dans Windows 2008 R2 et tel qu'on peut l'avoir dans Windows 2012 également, même dans un environnement cluster. Eh bien, il est relativement simple. Dans un premier moment, alors je rappelle que le principe de live migration, c'est de déplacer une machine virtuelle d'un node de virtualisation 1 vers un node de virtualisation numéro 2, le tout avec la machine virtuelle qui continue à fonctionner durant cette phase de déplacement. Donc, pour l'utilisateur, ce sera complètement transparent. L'utilisateur qui sera connecté à la machine virtuelle ne verra pas que la machine se déplace d'un node physique à un autre. Alors, est-ce qu'on peut perdre des choses ? C'est toujours la question qu'on nous pose comme question. Est-ce qu'on peut perdre des choses ? Ben, la réponse est oui, on peut perdre à peu près 2 à 3 paquets ICMP, ce qui est largement inférieur au timeout d'une trame TCP ou même d'une paquet UDP. Hein. Donc, à la limite, ben, c'est pas grave. C'est-à-dire que l'application derrière ne sera pas absolument pas gênée. Si vous faites un ping, par contre, effectivement, vous verrez peut-être que vous allez perdre de 2 à 3 pings, ce qui est vraiment pas grave. Donc, comment ça va fonctionner ? Eh bien, durant l'opération de la migration, on va avoir en fait un duplicat de l'état de la RAM de la machine virtuelle de l'hôte de virtualisation numéro 1 vers l'hôte de virtualisation numéro 2. Donc, ce duplicat, ça va être une copie au travers du réseau, basiquement, qui va être fait de la RAM de cette machine virtuelle. Donc, plus la machine virtuelle a beaucoup de RAM, plus l'opération de copie va prendre du temps. Ça, c'est mécanique. Donc, une machine virtuelle qui représente 32 Go de mémoire, eh bien, il va falloir dédupliquer ces 32 Go de mémoire de l'hôte de virtualisation numéro 1 vers l'hôte numéro 2. Donc là, à la vitesse du réseau, hein, en fonction de la bande passante disponible. Ça veut dire aussi, et on le sait tous, qu'une machine qui vit, qui est exécutée, eh bien, la mémoire change régulièrement. Donc le temps de faire cette opération de copie, il y a quand même des grandes chances que la mémoire ait changé. C'est normal, c'est prévu pour. Donc, copie initiale, ça va être le premier état de transfert de la mémoire. Ensuite, on va avoir une copie du delta, c'est-à-dire ce qui s'est passé entre le début de la copie de la RAM initiale et puis la fin de la copie de la RAM initiale. Donc il y a eu des changements, ces changements, ensuite on les copie. Et en fait, mécaniquement, en reproduisant de manière récursive l'opération, on va arriver à la fin, à la fin une simple copie de quelques bits qui sont changés. Et à la fin, on aura strictement la même mémoire. Et à ce moment-là, quand les deux mémoires sont strictement identiques, eh bien, on va avoir un changement de contexte, en fait. C'est-à-dire que le deuxième hyperviseur va prendre la main, en termes de gestion des handles, sur les fichiers de la machine virtuelle, y compris le disque dur virtuel. Voilà. Donc, du coup, on a ce switch automatique. Effectivement, les 2-3 pings perdus sont effectivement le temps très court de ce changement de contexte.
Alors, là, dans le cas d'un cluster, donc on a une machine qui est partagée, un contexte de stockage qui est partagé entre nos deux serveurs.
Exact.
Alors, une nouveauté de 2012 aussi, c'est que, effectivement, ce cluster, ça peut être un petit peu lourd à mettre en œuvre, on va dire. En tous les cas, ça peut ne pas correspondre à tous les scénarios. On peut avoir besoin d'une disponibilité de machine sans toutefois avoir une haute disponibilité.
On est d'accord que le cluster est là pour apporter la haute disponibilité. C'est-à-dire que si une machine physique tombe en panne, donc un nœud cluster, un hyperviseur, automatiquement, les machines qui ont été clusterisées seront automatiquement redémarrées par le deuxième nœud à côté, mais ça a un coût et une complexité un peu supérieure à une simple machine avec un hyperviseur.
Exactement. Donc on a un mode de fonctionnement qui est intéressant dans Windows Server 2012 également, qui est le stockage en fait de mes serveurs, de mes machines virtuelles Hyper-V, sur un serveur de fichiers. Alors, pour ceux qui ont connu le serveur de fichiers auparavant, il nous faudra un serveur Windows Server 2012 pour en fait supporter le protocole de fichiers SMB 3.0. Et en fait, ce protocole de fichiers, il a réellement été conçu pour pouvoir héberger maintenant des applications comme Hyper-V, pour stocker directement les machines virtuelles d'Hyper-V ou pour des bases SQL par exemple. Donc il a réellement été taillé pour ça et été évolué pour ça.
Peut-être préciser quand même que quand on est dans le cadre effectivement où les machines sont stockées sur ce partage de fichiers, on n'est pas ici dans un cluster. On a des serveurs Hyper-V qui sont connectés à un partage de fichiers. Et donc, on a de la disponibilité dans le sens où on va pouvoir effectivement planifier ce déplacement, ce live migration serveur A vers un serveur B. Par contre, effectivement, si le serveur A tombe, ben, le serveur B ne va pas forcément redémarrer. Ça, c'est du mécanisme de cluster, et non pas du mécanisme.
Absolument. Et on voit bien qu'effectivement, sur notre schéma, on a bien juste deux hôtes hyper V qui sont là, qui ont juste accès en commun au serveur de fichiers. Donc, ce que ça va faire, en fait, ça va nous permettre de simplement faire passer mes machines virtuelles d'un hôte A à un hôte B lorsque je fais des opérations de maintenance, on va dire planifiées. Je veux en fait réhéberger des machines sans pour autant perdre l'opération de ma machine virtuelle. Donc on a des prérequis, on doit supporter effectivement le serveur de fichiers en SMB 3.0, donc c'est du serveur 2012, mais on aura bientôt les constructeurs de différentes baies qui vont proposer le support de SMB 3.0 également. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme scénario, Stanislas, qui nous est permis par serveur 2012
Comme autre scénario, on a justement ce live migration qui va pouvoir fonctionner, donc effectivement planifié entre deux serveurs Hyper-V qui se partagent sur un stockage partagé des machines virtuelles. On pourrait même faire mieux, c'est-à-dire déplacer des machines sans avoir un partage commun. Ce qu'on va appeler du live migration, share nothing, ou la migration live sans partage de données. Alors juste revenir peut-être sur la partie de la migration, quand on va avoir effectivement les machines virtuelles qui vont être stockées sur ce partage des fichiers, comment ça va fonctionner? Et bien exactement en fait de la même façon un petit peu que je l'ai décrit tout à l'heure pour le mécanisme qui existe depuis 2008 R2 avec le cluster. Donc dans la première étape, dans l'assistant du live migration, on va lancer l'assistant, ça va vérifier effectivement que la machine en face, l'Hyper-V est capable d'exécuter la machine qu'on va lui envoyer de l'hyperviseur A vers l'hyperviseur B. Donc les fiches configuration vont être envoyées de la machine A vers la machine B. Ensuite, deuxième étape, la mémoire va être transférée, donc cette fameuse RAM. Donc avant, on a vérifié qu'on avait le droit de recevoir la machine, qu'on avait bien les bons prérequis matériels. Ensuite, on transfère cette mémoire RAM. Donc, je rappelle, le principe transfert de la totalité, puis ensuite on prend juste les différentiels qu'il y a eu, puis les différentiels des différentiels, jusqu'à avoir strictement la même étape. Donc, on a fait l'état de base, ça c'est les états donc modifiés, c'est les différentiels. Et puis une fois qu'en fait on a strictement la mémoire des deux côtés, là on a simplement un changement de gestion, de prise en compte de handle par le deuxième serveur. Donc le deuxième serveur va dire hop, c'est moi maintenant qui gère ce fichier VHD, ces fiches configuration. Aussi simplement.
Aussi simplement que ça.
Voilà.
Et je te propose qu'on regarde à quoi ça ressemble.
C'est une petite démonstration.
Une petite démonstration.
Allez. Donc ici, tu vois, j'ai un ensemble de petits serveurs Hyper-V, donc les Hyper-Speed 1 à 3. Et donc sur mon serveur numéro 1, j'ai une machine ici qui s'appelle Paris. Parce qu'on fait la démo à ici, donc c'est tout à fait normal de l'appeler Paris. Et donc cette machine, en fait, on va la déplacer. Alors avant de la déplacer, je vais quand même te montrer une chose qu'on doit faire au préalable sur les différents hyperviseurs quand on veut commencer à faire point du déplacement à chaud. Donc là, on va dire qu'on va faire du déplacement de l'hyperspeed numéro 1 vers le numéro 2, et puis par la suite, je redéplacerai du 2 vers le 1. Donc ça veut dire que il faut configurer chaque serveur Hyper-V pour la live migration. Donc la live migration, on vient sur les paramètres Hyper-V settings, et ici, tu remarqueras la présence effectivement d'une zone qui s'appelle live migration avec une petite chose nouvelle qui s'appelle les migrations simultanées. Je vais en parler juste après. Donc, il faut venir activer dans la live migration, dire ici, cette machine peut recevoir ou envoyer des machines virtuelles en live migration. Ensuite, on va choisir la méthode d'authentification, donc soit du CRED SSP, auquel cas, pour faire des opérations, il faut être logué localement ou sur une console d'administration de terminal serveur sur la machine qui va initialiser le transfert. Ouais. Et puis, si on a des environnements où on veut pouvoir avoir une même console et puis déclencher depuis un autre serveur une opération de live migration, il faudra mettre en place ce qu'on appelle de la KDC, Kerberos Constraint Delegation, de la délégation Kerberos. C'est un petit peu plus complexe à paramétrer, mais ça se fait, c'est relativement bien documenté. Et donc, je vais parler d'une des nouveautés qui est effectivement la capacité, dans la live migration désormais, de faire plusieurs migrations live en simultané. En 2008 R2, quand on veut déplacer, mettons, 5 machines d'un hôte A vers un hôte B, on va les déplacer les unes après les autres, de manière complètement séquentielle. Donc première machine, envoyée sur le réseau, deuxième machine, troisième machine, quatrième machine. Donc quand on a beaucoup de machines, ça peut du coup être un petit peu long, et ce qui est dommage, parce que finalement, des fois, on a des grosses connexions, connectivité réseau, entre deux serveurs, on pourrait se dire, pourquoi on n'en envoie pas plusieurs en simultané. Donc ça, on peut désormais le faire avec Windows Server 2012. Par défaut, le chiffre est de 2. Alors, à savoir, c'est que la bande passante consommée sur la live migration d'environ en moyenne, hein, 500 mégabits de bande passante sont consommés. Donc on estime qu'effectivement, avec une carte standard gigabit, on peut faire passer sans problème sur le tuyau de Live Migration.
Deux fois 500 mégabits par seconde.
Exactement. Donc, si on a après plus de cartes réseau ou des agrégats, on en reparlera dans une autre vidéo, on peut se permettre de monter ce chiffre. Là encore, attention au système disque qui est en face, qui doit également être capable d'absorber, entre guillemets, cette charge qui va arriver. Et puis, on peut également définir dans ce paramétrage quels sont les réseaux qui vont être utilisés pour Live Migration. On peut avoir choisi de segmenter, d'avoir fait plusieurs VLAN ou plusieurs brins réseau dédiés à certaines opérations. Donc typiquement, on peut en faire pour le Live Migration. Donc dans ce cas-là, on va pouvoir dire ben, telles adresses IP ou telles plages d'adresses IP vont être utilisées pour le Live Migration. Ou on peut dire, là dans mon cas, de manière plus simple, en disant ben, écoute, prends la connexion réseau qui te plaît et puis ben, utilise-la. Au passage, on est capable d'utiliser du SMB multi-channel, SMB V3, ça c'est une vidéo dont on en parlera.
Ça, c'est une autre histoire.
Dans le cas de la migration. Donc là c'est configuré, je vais prendre ma machine ici, je vais faire bouton droit, déplacer, move. Et là j'ai plusieurs options qui me disent ce que vous voulez faire, est-ce que vous déplacer la machine virtuelle ou déplacer le stockage. Déplacer le stockage, là encore c'est une autre vidéo, ça s'appelle le storage migration, on en parlera plus tard. Je vais déplacer la machine virtuelle et va me dire sur quelle machine tu souhaites le déplacer. Bah, écoute, je suis actuellement sur le numéro 1, je voudrais mettre la machine sur le numéro 2. Et là, il va me dire, est-ce que tu veux déplacer l'ensemble des fichiers de la machine de l'hôte numéro 1 vers l'hôte numéro 2, ou est-ce que tu veux déplacer que la machine? Donc là, en fait, ici, on va avoir deux options. Si la machine est stockée sur un partage de fichiers ou sur un SAN, donc un espace qui est accessible par les deux serveurs, on va dire, bah, déplace seulement la machine virtuelle, le stockage, il reste là où il est, tu ne le bouges pas. Tu vas juste déplacer, donc faire le transfert de mémoire et le changement de handle, et c'est tout. Et puis dans cet exemple, je vais faire une chose un peu plus particulière. Je vais dire, ben, on va déplacer également les données. Parce que là, actuellement, ma machine, en fait, elle est stockée localement sur mon hyperviseur numéro 1. Et là, on va faire un live migration un peu particulier qu'on appelle live migration share nothing, c'est-à-dire sans aucun partage, sans aucun stockage partagé entre les deux serveurs. Et donc, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'en plus de la déduplication de la mémoire, on va dédupliquer également le disque sur la deuxième machine. Et quand toute la duplication aura été faite bien proprement, eh bien, la VM tournera localement sur le deuxième serveur Hyper-V. Voilà. Donc là, on va transférer en plus les données du disque qui prendra un peu plus de bande passante.
Et bien, c'est parti.
Suivant. Là, il me demande sur le serveur en face sur quel répertoire tu veux stocker. Donc là, je suis bien sur Hyperspeed. Sur quel répertoire tu veux stocker cette nouvelle machine virtuelle. Comme je suis très logique, je vais le mettre sur Bordeaux.
Oui, ça paraît effectivement tout à fait logique.
Bon, en fait, j'ai renommé la machine entre temps. Voilà, donc là il me dit, écoute, tu prends la machine virtuelle qui s'appelle Paris, tu vas déplacer la VM et le stockage, tu vois le déplacement ici, c'est précisé, Virtual Machine and Storage. L'ordinateur de destination, c'est Hyperspeed 2, et puis tu vas stocker les fichiers disque dur dans VM Bordeaux, désolé. Les fichiers de configuration, le snapshot et le smart paging dans Bordeaux. Donc là, il ne me reste plus qu'en fait à cliquer sur Finish. Là, la barre de progression met un petit peu de temps à démarrer. Ce qui est en train de se passer, c'est que le serveur hyperviseur numéro 1 est en train de vérifier que l'hyperviseur numéro 2 sera à même de pouvoir démarrer la machine virtuelle. C'est-à-dire qu'en gros, on est sur les mêmes architectures processeur, qui a assez de mémoire en face, et qui a assez de disques pour le recevoir. Et qu'au passage, les réseaux ont les mêmes noms en termes de switch. Mm-hmm. Et si ce n'est pas le cas, il dira attention. Et là, vous voyez, hop, le déplacement se fait, c'est relativement rapide pour peu qu'on ait un réseau qui débite un petit peu. Donc, ma machine Paris a disparu, je peux aller la voir. Désormais, sur Hyperspeed 2, elle est présente ici. L'opération a été assez rapide et effectivement, maintenant, sur Hyperspeed 2, ma machine est stockée. On va regarder ses paramètres dans CVM Bordeaux. Voilà. Aussi simple que ça. Là, je vous l'ai fait graphiquement. On peut bien entendu le faire en PowerShell, en ligne de commande, mais ça, c'est une autre vidéo.
Eh bien, merci Stanislas.
Salut.